à voix nue. Toute cette semaine, Laurent Gouma rencontre Jean-Jacques Ayagon. Ce soir, religion et coming out.
Bonsoir Jean-Jacques Ayagon.
Bonsoir.
Hier, on avait fini sur les questions philosophiques et religieuses. On va continuer légèrement encore sur ce terrain-là aujourd'hui, car il y a une figure qui revient dans votre parcours. Mais d'abord, avant de commencer, toujours notre rituel, un premier souvenir lié à quelque chose de l'ordre de la religion.
La fête Dieu, sans doute, hein, ce rite désuet, mais qui était plein de force scénique, plein de force dramatique. Quand des processions s'engageaient dans les rues des villages, qu'on répandait des pétales de pivoine, c'était en cette saison sur les sols que les gens décoraient leurs façades de branchages, que ici ou là on créait des reposoirs, des sortes de scénographies. Je pense que le théâtre, je l'ai appris dans la fête Dieu, hein, tellement cette mise en scène me fascinait. Quelques années, bien après ces souvenirs de mon enfance, j'avais vu au théâtre des Champs-Élysées une mise en scène de la Passion selon Saint Jean de Jean-Sébastien Bach, mise en scène par Pierluigi Pizzi. Je me suis rendu compte que j'y retrouvais, là, dans ces processions incessantes, finalement, une sorte de réminiscence de ces vêtements de Dieu, où en plus vraiment tout l'ordre social défilé dans un ordre bien constitué, les communiantes, les sapeurs-pompiers, puisqu'on était en Alsace-Moselle, donc en régime concordataire, les autorités civiles participaient à la procession, la fabrique, les fabriciens de l'église, des enfants de chœur, de l'encens, une sorte de faste qui illuminait le quotidien d'une ville pas très jolie, d'une petite ville pas très jolie, plutôt grise. Brusquement, ça devenait une fête insensée et comme une mise en scène de théâtre. Alors, ce qui était désespérant, c'était les dimanches où ça se passait et où il pleuvait. Et le mauvais temps foutait tout ça en l'air. Enfin, ça arrivait de temps à autre. Mais quand il y avait du soleil, je veux dire que c'était vraiment très beau.
Je voulais continuer sur cette question de la religion parce que je sais qu'il y a une figure qui vous a marqué. C'est Michel de l'Hospital qui a tenté de réconcilier les catholiques et les protestants pendant les guerres de religion. Qu'est-ce qu'a pu représenter cette figure pour vous pour qu'il y ait une fixation à ce point-là?
Alors c'est un grand homme, Michel de l'Hôpital. Notamment, j'ai toujours beaucoup aimé dans l'histoire de son action un épisode que je trouve remarquable. C'est l'épisode du colloque de Poissy avec la reine Catherine de Médicis. Je crois que le colloque de Poissy se tient en 1562 ou 63. Je ne me souviens pas de la date très précise. 62 sans doute. Quand Michel de l'Hôpital et la reine réunissent à Poissy, donc dans l'actuelle banlieue parisienne, des délégations catholiques et protestantes pour tenter de les réconcilier, en leur tenant en gros ce discours en disant « Écoutez, vous pensez des choses différentes, mais ces choses, dans le fond, sont indifférentes parce qu'ils relèvent de subtilités qui peuvent être considérées chacune comme légitimes, mais qui ne créent pas pourtant d'obstacles à votre concorde, parce que quelle que soit votre opinion religieuse sur la consubstantiation ou la transsubstantiation, sur l'autorité du pape, sur l'organisation ecclésiastique, d'abord vous êtes les uns et les autres des chrétiens, et d'autre part vous êtes des Français, vous êtes des sujets du roi de France, et donc vous ne pouvez pas déchirer notre pays au nom de ses convictions religieuses. Et finalement cet épisode est la première affirmation d'une vision laïque de la société, d'une société où la diversité des opinions peut être tolérée, où elle doit être tolérée, elle doit être vécue de façon sereine, et où chacun, par ailleurs, quelle que soit la particularité ou le particularisme de sa pensée religieuse, en l'occurrence, peut se consacrer ses forces au développement de son pays, au rayonnement de son pays. C'est un épisode d'une très très grande modernité. Naturellement, ça n'a pas marché, puisque dès l'année après, le colloque de Poissy ne s'est pas conclu de façon positive. Aucune concorde véritable n'a été trouvée entre les délégués du protestantisme. Je crois que la délégation protestante était conduite par Théodore de Bèze, par le grand Théodore de Bèze. Plusieurs cardinaux conduisaient la délégation catholique, donc ils n'ont pas trouvé une voie de concorde. Et dès l'année suivante, c'est le déclenchement des guerres de religion qui vont pratiquement pendant un demi-siècle ravager la France. Mais cette volonté de Michel de l'Hôpital de trouver une voie d'accommodement entre les uns et les autres, c'est la marque d'un très grand caractère, d'une grande personnalité, d'une force de pensée tout à fait exceptionnelle. Il est, de ce point de vue, tout à fait légitime que Michel de l'Hôpital ait sa statue devant l'Assemblée nationale. Il est l'une des grandes pensées qui a fondé, la voie politique dans laquelle notre pays s'est engagé.
Je vais continuer
sur la voie de la tolérance, la voie de la démocratie, la voie de la discussion, la voie du compromis.
Je vais continuer sur ce sujet parce que manifestement la religion vous permet, Jean-Jacques Aillagon, de repenser le politique et notamment la démocratie. Vous avez souvent évoqué la réforme de Martin Luther au XVIe siècle. En quoi cette réforme vous permet de penser la démocratie? Et là, je m'adresse à Jean-Jacques Aillagon qui sera ministre de la Culture, issu de ce qu'on appelle la société civile.
Oui, tout à fait, parce que Martin Luther est un génie. C'est un génie pour la littérature allemande, c'est un génie pour la pensée allemande, c'est un génie pour, finalement, la pensée européenne également. Que cet homme seul ose s'insurger contre un ordre puissamment constitué, l'ordre de la papauté, l'ordre de l'Empire, affirmer le primat de sa conscience et de sa volonté sur les convenances et sur les ordres imposés, l'affirmation du droit à la libre critique, au libre examen des textes, tout ça c'est d'une prodigieuse modernité. Alors l'un des éléments les plus centraux de la pensée de Martin Luther, c'est l'affirmation pour l'organisation de l'Église, de ce qu'il a appelé le sacerdoce universel. Là où l'Église catholique institue un clergé, des ordres, des hiérarchies, une distinction entre les fidèles et le clergé, Luther affirme que tout chrétien, finalement, a le même statut de prêtre, en quelque sorte, et que donc les pasteurs ne sont que des préposés au culte, exerçant au nom d'une collectivité, un ministère, mais voilà, qu'il n'y a plus de distinction entre ceux qui exercent ce ministère et les simples fidèles. Bon, principe du sacerdoce universel. Et j'ai toujours pensé que finalement, la pensée démocratique était une sorte de transposition à l'ordre civil de cette idée de Luther. En démocratie, de ce fait, et à mes yeux, il n'existe aucune distinction entre tous ceux qui composent une collectivité civique. Je suis toujours vraiment excédé d'entendre certains, et même d'excellents journalistes, parler des élus, de ceux qui exercent un mandat politique, en disant « les politiques », comme si les citoyens n'étaient pas aussi des êtres politiques, des éléments de la vie civique, des éléments actifs de la vie civique de notre pays. Donc, l'expression « société civile » m'a également toujours semblé étrange. Il y a certes des élus d'un côté, des gens qui ont reçu du peuple un mandat, mais ils ne forment pas une caste particulière, ils ne forment pas une société particulière, il n'y a pas la société politique de l'autre et la société civile de l'autre. Et c'est peut-être justement parce que trop souvent, il y a en fait une société civile et une société politique que notre démocratie est aussi fragile. Alors en effet, quand je suis devenu ministre, on a dit que j'étais issu de la société civile. J'ai répondu qu'à part les militaires et les curés, il n'y avait que des civils, nous étions tous civils. Un député est un civil, un simple citoyen est un civil. Je crois qu'il faut qu'on retrouve dans la démocratie française ce sens nécessaire du caractère non exceptionnel du statut de ceux qui ont reçu un mandat. Quand le président Hollande a été élu, j'ai beaucoup apprécié son discours sur la normalité nécessaire du président, parce que j'estimais en effet que nous étions, que la démocratie française était marquée de trop de traits monarchiques et qu'il fallait retrouver le sens finalement de la normalité. Le titulaire d'un mandat, quel que soit l'importance de ce mandat, et donc même celui de président de la République, donc de premier magistrat de la République, tout titulaire d'un mandat ne doit jamais perdre de vue qu'il reste un citoyen au service des citoyens. Il faut mettre fin à cette effroyable anormalité du comportement des élus qui finissent par imaginer qu'ils tiennent le pouvoir de droit divin, qu'ils sont appelés à l'exercer toujours et qu'ils n'ont pas de compte à rendre. Il faut toujours rendre des comptes et il faut toujours tenter de rester le plus normal possible. Je dis ça d'autant plus volontiers que par ailleurs, on ne m'a pas toujours estimé totalement normal, mais en tout cas, dans la vie politique et dans la vie civique, il faut marquer ce besoin, cette nécessité de la normalité.
Est-ce que vous avez le sentiment, en tant que ministre de la Culture à partir de 2002, d'avoir payé le prix d'être issu de la société civile ?
Bon, il est vrai que dans un gouvernement, quand il y a des difficultés, on se déloigne beaucoup plus facilement de ses choix ou de ses responsabilités en accablant les ministres issus de la société civile. Bon, souvent, ce sont ces ministres-là qui sont débarqués le plus rapidement ou le plus facilement. Alors c'est vrai qu'ils ne tiennent pas des territoires, ils ne tiennent pas des partis politiques, dans le jeu politique, ils ne peuvent pas exercer d'influence au-delà de ce qu'est éventuellement leur autorité professionnelle ou leur autorité morale. Ils sont dans une situation de plus grande vulnérabilité, c'est vrai.
C'est ce que vous avez vécu ?
C'est ce que j'ai un peu vécu. Il est vrai que dans la crise de l'été 2003...
Autour des intermittents,
il est évident que... D'une part, je n'ai pas reçu de tous mes collègues tout le soutien qui aurait été nécessaire. Ce dossier relève plus du ministre en charge des affaires sociales que du ministre de la Culture. Après tout, les questions de l'UNEDIC, ce n'est pas le ministre de la Culture qui les gère. Il est concerné, il est impacté par ces questions, mais ce n'est pas lui qui décide, ce n'est pas lui qui est l'interlocuteur principal des partenaires sociaux, du patronat d'un côté, des syndicats représentatifs des salariés de l'autre. Donc, je pense que si j'avais bénéficié de mon collègue de l'époque, ministre des Affaires sociales, d'un soutien plus déterminé, plus compréhensif, on aurait sans doute pu régler cette question de façon plus paisible.
Vous pensez que si vous aviez reçu la même formation, par exemple, si vous aviez été dans le même sérail, ça aurait été beaucoup plus facile?
Oui, parce que ça crée de l'intimité, ça crée des complicités également, ça incite à des prudences, parce que dans ce cercle des hommes politiques, pour employer à escient cette formule que je récuse, il y a toujours un jeu comme ça de tu me donnes, je te donne, et donc il y a de la prudence, on ne veut pas aller trop loin, on ne veut pas s'égarer, parce qu'on sait très bien qu'on peut recevoir un jour en retour, alors que les gens de la société civile, voilà, ils sont souvent laissés à leurs propres difficultés. En plus, vous le savez, dans un gouvernement, il se produit, j'en ai fait l'expérience, quelque chose de terrible, c'est que dans les temps difficiles, tout ministre finit par considérer avec un certain plaisir qu'un collègue ait des difficultés en se disant que pendant qu'il a des difficultés, il n'en aura pas, que finalement, il ne peut pas y avoir des difficultés pour tout le monde en même temps et que quand l'orage s'abat sur un canton, il épargne peut-être les cantons voisins. Donc il y a une sorte d'effroyable égoïsme du comportement ministériel qui fait d'ailleurs qu'il n'y a très peu de solidarité ministérielle.
Les Ouménés de Bonada ont pour désagréables voisins les Nippots de Pomédée. Les Nibonis de Ponaris s'entendent soit avec les Nippots de Pomédée, soit avec les Jabons de Carabule pour amorcer une menace contre les Ouménés de Bonada, après naturellement s'être alliés avec les Bitules de Rotrarque ou après avoir momentanément, par engagement secret, neutralisé les Jobettes de Biliguette qui sont situées sur le flanc des cols vides de Belay qui couvrent le pays des Ouménés de Bonada et la partie nord-ouest du turritaire des Nippots de Pomédée, au-delà des brochus de Tosteboule. La situation, naturellement, ne se présente pas toujours d'une façon aussi simple.
Dans votre parcours professionnel, est-ce que vous avez eu honte de votre milieu ?
Non. Je retrouvais ça indigne. Je n'ai pas eu honte de mon milieu. Nous sommes façonnés par notre vie, par notre milieu, par notre famille. Je crois qu'on ne peut pas en avoir honte. C'est, De toute façon, c'est une réalité qui vous rattrape toujours. Donc, il ne faut pas tenter de s'en échapper. Bon, j'estime également que, finalement, ayant eu la chance d'accéder à beaucoup de responsabilités importantes, j'avais un devoir également à l'égard de tous ces gens dont je venais, et que les renier aurait été une chose terrible. C'est également la raison pour laquelle j'ai fait de façon très précoce le choix de ne jamais cacher que j'étais homosexuel. À une certaine époque, j'aurais pu être tenté de le faire par prudence, parce que c'était inavouable ou mal vu, mais là aussi j'estimais qu'à partir du moment où on me confiait les responsabilités, que j'accédais à des positions plus en vue que d'autres, j'avais le devoir, sans exhibitionnisme, mais avec une totale sincérité, de ne pas cacher comment je vivais, cacher quelles étaient mes inclinaisons, comme on a fini par dire, quels étaient mes choix de vie, quelles étaient mes préférences. C'était une façon aussi de permettre à tous ceux qui sont obligés de se cacher, qui sont obligés de se taire, de vivre avec plus de dignité, plus librement.
J'imagine quand même que cette homosexualité n'a pas toujours été facile, non pas à vivre, mais à afficher. Comment votre famille, par exemple, a pu réagir par rapport à cela?
Tout d'abord, ma famille était un peu disloquée, donc je m'en suis finalement affranchi assez rapidement, mais la grande blessure que j'ai ressentie et que j'ai infligée d'ailleurs, c'est finalement de prendre réellement conscience ou totalement conscience de cette homosexualité, alors que j'étais marié, que j'avais deux enfants. Donc c'est à l'égard de celle qui était ma femme, mon épouse, que finalement j'ai eu plus de difficultés à gérer les choses, parce qu'il est vrai que j'ai blessé son existence, j'ai blessé le choix de vie qu'elle avait fait en m'épousant, je sais que j'ai perturbé la vie de mes enfants, parce que c'est... qui m'ont pardonné. Finalement,
pardonner,
ils m'ont jamais dit on te pardonne, mais leur comportement affectueux à leur égard, leur compréhension à mon égard, fait que ça vaut pour moi comme une sorte de pardon. Ils ont fini par tolérer de ne pas avoir un père totalement, pas un père ordinaire, pas un père comme les autres. Mais la pire des choses, j'ai vu trop de gens vivre en cachant ce qu'ils étaient, ce qu'ils aimaient, ce qu'ils désiraient, pour ne pas avoir envie de faire pareil. Et donc, vous évoquiez la question du reniement possible de mon milieu, du reniement également de ce que j'étais. Je me suis toujours fixé comme règle d'être aussi sincère que possible. On ne l'est jamais totalement, on a toujours des petites dissimulations, parfois de grandes dissimulations, mais j'ai tenté de faire en sorte qu'il y en ait chez moi aussi peu que possible.
Alors qu'on a tenté, je crois, de vous guérir de cette homosexualité.
Oui, on a tenté de me guérir. J'ai moi-même d'ailleurs consenti à tenter de le faire. Quand j'en suis arrivé à une prise de conscience totale de mes préférences sexuelles, alors que j'étais marié.
Dans les années 70,
au début des années, à l'extrême début des années 70. J'ai tenté de voir tout d'abord si c'était pas lié à une anomalie passagère. Donc un premier médecin a décrété que c'était la conséquence d'une baisse excessive du taux d'hormones masculines dans mon organisme. Donc on m'a d'abord injecté des hormones. Ensuite un autre a décrété que c'était lié à une dépression passagère. Donc en effet, on m'a soigné. J'ai passé quelques semaines dans une maison de soins dans la banlieue toulousaine. On m'a fait des électrochocs, des narcoses, pensant que ces traitements de cheval allaient me guérir. Souvent, en atterrissant à Toulouse, je revois cette maison de soins qui est tout proche de l'aéroport de Toulouse. À l'époque, elle était en pleine campagne. Donc voilà, on m'a pratiqué ces choses absurdes, ces traitements, entre guillemets, absurdes et naturellement totalement inefficaces. Ils m'ont épuisé. Il est évident qu'ils n'ont rien changé à mes désirs, qui étaient inscrits au plus profond de ma personnalité, de mon être. Et je crois que c'est mon ancienne femme, finalement, qui m'a libéré, qui m'a prodigué le meilleur traitement, puisqu'quand elle a décidé de me quitter, elle est partie avec beaucoup de courage, en décidant que notre vie n'était plus possible. En quelque sorte, elle me rendait ma liberté. et elle est décédée il y a 2 ans, et donc vraiment j'ai beaucoup de gratitude à son égard, parce que en partant, elle a assumé sa blessure, son chagrin. Elle a élevé nos enfants avec beaucoup de dignité, et en même temps elle m'a rendu libre. Elle a en quelque sorte elle a brisé la chaîne qui m'empêchait d'être totalement moi-même. C'est elle qui m'a délivré.
En 2002, avant d'être nommé ministre, vous aviez dans un article dans Le Monde fait votre coming out, comme on dit. C'était important? Ou ça n'était pas vraiment cette époque?
Écoutez, d'une part, c'était important. En même temps, je ne l'avais jamais caché, donc c'était un secret. C'était un secret pour personne. À ce moment-là, j'ai passé quelques années de ma vie avec Patrick Dupont, un danseur qui était très... qui avait une très forte visibilité. Tout le monde savait que nous partagions, que nous vivions ensemble. Donc le fait que je sois homosexuel n'était en tout cas, pour le Landerneau, n'était pas un secret. Mais en l'affirmant de façon beaucoup plus catégorique dans une tribune, dans un journal, il est évident que je pensais également à tous ceux que j'avais vus réprimer leurs désirs, cacher leurs désirs, mener des vies honteuses, ne s'adonner à leur désir que de façon honteuse, être réprouvé par leur famille, subir parfois des persécutions. Et je me suis dit que c'était une sorte de devoir pour moi de témoigner qu'on pouvait tout à fait avoir dans la société, jouer un rôle dans la société, accéder à des responsabilités et par ailleurs assumer totalement une sexualité différente de celle de la majorité de vos contemporains, que ce n'était pas une stigmate, que ce n'était pas, on n'était pas marqué au fer rouge, mais qu'on avait le droit de vivre simplement dans la dignité. Bon, il est évident également qu'au moment du débat sur le mariage pour tous, je n'ai pas compris un instant que la société française se déchaîne avec tant de violence, tant de haine même, à l'égard de cette faculté ouverte aux couples homosexuels, de se marier pour ceux qui le désireraient. Je n'ai jamais rêvé me remarier, puisque j'étais marié une première fois. Et donc ce n'est pas un fantasme personnel, encore que finalement rien ne dit qu'un jour je ne me marierai pas, pour enfin régulariser une liaison que j'entretiens depuis plus de 20 ans avec le même homme. Mais ce n'est pas un fantasme, je n'aime pas beaucoup les choses trop instituées, mais après tout, ceux qui veulent se marier, c'était une nécessité que de leur reconnaître le droit de se marier.
Comment vous avez regardé justement ce débat-là, et notamment au niveau des politiques, Jean-Jacques Ayagon?
Moi, je l'ai regardé, consterné, parce que bon, un certain nombre de personnalités ont fait preuve de courage dans cette affaire, y compris des personnalités de droite.
De droite, oui.
Mais bon, un certain nombre d'autres personnalités de droite se sont comportés avec outrance, de façon démagogique d'ailleurs, pour flatter l'opinion présumée de leurs électeurs. Ça n'a pas toujours été très très digne. Je pense que l'Église catholique, pour revenir à l'Église catholique comme corps organisé, ne s'est pas bien comportée non plus. Elle a oublié un certain nombre de préceptes, dont celui de la toute simple charité. Des évêques ont fait quelques déclarations tout particulièrement outrancières à cette occasion. L'archevêque de Lyon, par exemple, le cardinal Barbarin, tout ça n'a pas été toujours convenable, comme dirait Chirac. En contrepoint, quand on voit l'Irlande traiter de façon tout à fait paisible, de façon civique, ce problème, adopter le mariage pour tous à travers un référendum, considérer que chaque parti, ceux qui étaient pour et ceux qui étaient contre, considèrent que c'est la loi et qu'il n'y a pas lieu de tergiverser, de revenir là-dessus. Voilà, on a vraiment là à faire un exemple de véritable démocratie. Aujourd'hui, j'entends encore régulièrement des gens dire que, en cas d'alternance politique, la droite reviendrait sur ces dispositions. Mais c'est monstrueux. C'est absurde et monstrueux. C'est honteux même. Et je ne peux qu'approuver le courage d'un Alain Juppé quand il déclare qu'on ne reviendra pas sur cette loi. Si on revenait sur cette loi, bon, ça créerait des situations juridiques impossibles. Et d'autre part, ce serait la preuve que notre pays est capable de régression effroyable. Cette loi est désormais la loi de la République. Elle doit le rester. J'étais à Nice quand on y a célébré le premier mariage pour tous. Et donc j'avais envie de voir ce que c'était un mariage entre deux hommes. C'est un peu puéril de ma part. Donc je me suis rendu à la mairie de Nice pour assister à ce mariage. Je ne connaissais pas les mariés. Et donc j'ai constaté que le mariage était célébré par le maire de Nice lui-même, Christian Estrosi, dont j'ai beaucoup apprécié le discours. En gros, il a dit, écoutez, messieurs, je n'ai pas voté la loi pour telle et telle raison. Alors, il a invoqué des raisons techniques plutôt que des raisons de fond. Oui. Mais désormais, c'est la loi de la République française. Et à Nice, nous appliquons la loi de la République. C'est la raison pour laquelle j'ai tenu à célébrer ce mariage moi-même. Et il rajoute, en voyant ces deux hommes, et messieurs, en voyant votre bonheur, je suis très heureux de célébrer votre union. Et je trouvais ça républicain. Donc il ne faudra jamais revenir sur cette loi. Et ceux qui, comme M. Wauquiez, prétendent qu'il faudrait revenir sur la loi, tiennent des propos irresponsables, indignes de la République dans laquelle nous vivons.
Et le fait que Jean-Jacques Ayagon soit dans l'Assemblée, ça a créé quelque chose ce soir-là, ce jour-là ?
Ça a créé quelque chose de bizarre, parce que donc le maire de Nice, croyant sans doute que je connaissais cette famille, me salue dans l'Assemblée, donc tous les gens sont tournés vers moi pour vraiment avec étonnement. Et alors ensuite le maire ajoute également, voit dans l'assistance un prêtre, et je salue également l'abbé Machin, frère de l'un des deux mariés. Et donc j'étais quasiment en famille. Et donc le maire de Nice m'a raconté que quelques mois plus tard, ce prêtre a été installé dans une paroisse de Nice, et qu'il a été installé par son évêque. Le maire de Nice assistait à cette cérémonie. Mmh. Et à un moment, le prêtre, faisant un sermon, dit « Je remercie la présence de notre assemblée du maire de Nice, M. Christian Estrosi, qui il y a quelques semaines, ou quelques mois, je ne m'en souviens plus, a célébré le mariage de mon frère avec M. Machin. » Et donc Estrosi me dit qu'il s'attendait à ce moment-là qu'il y ait un murmure de désapprobation dans l'assistance, et il a constaté que toute l'assistance s'est mise à applaudir. Et donc il m'a dit, finalement j'ai compris là que la société était souvent en avance par rapport à l'expression d'un point de vue sur les questions de société par les politiques. Cette société de fidèles d'une église avait totalement finalement assimilé l'idée que deux hommes pouvaient se marier. Il trouvait ça même très très bien que le maire ait célébré cette union.
Merci Jean-Jacques Ayagon, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On se retrouve demain.
À demain.
Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre de Laurent Goumard avec Jean-Jacques Ayagon. Voix nue, attachée d'émission Claire Poinsignon. Prise de son Valérie Lavalard. Réalisation Olivier Guérin. Coordination Béline Dola. Cette émission s'écoute en ligne pendant une durée de 1000 jours et ce podcast pendant un an sur franceculture.fr.